chômage vous occupe, le chômage vous préoccupe. Occupez les AMPE, occupez les AMPE.
Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage.
Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être plein. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être plein.
Nous sommes sur Fréquence Paris Pluriel, émission mode d'emploi jusqu'à 21h30. Pour nous joindre, vous avez la possibilité de nous écrire au 45 rue d'Aubervilliers, 75018. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Abraham Béard, qui est le président de l'Association des médecins contre la guerre nucléaire. Et nous allons commencer par la question qui fait boum. Qu'est-ce que c'est que ça, le nucléaire militaire? Parce que c'est par là que ça a commencé, Hiroshima, Nagasaki, etc. C'est par là que ça a commencé et que ça a continué pendant un certain temps en tout cas. Et puis c'est rajouté le nucléaire civil, enfin bon, nous allons y venir. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ça, le nucléaire militaire?
Ben justement, la connaissance de ce que c'est que le nucléaire militaire est très très liée à la classe d'âge et aux générations. La génération qui a vécu en 45-50 sait parfaitement ce que c'est que l'arme atomique, pour la bonne raison que les États-Unis l'ont utilisée par deux fois au Japon, avec des conséquences épouvantables. Et donc, à l'époque, quand on disait « qu'est-ce que le nucléaire ?», la réponse automatique était de dire « c'est l'arme atomique ». Paradoxalement, aujourd'hui, quand on interroge la classe d'âge des 19-24 ans, et que l'on dit « qu'est-ce que c'est que le nucléaire ?», ils répondent « Tchernobyl, La Hague », ils répondent « les déchets nucléaires », et pratiquement jamais... Pratiquement, ils ne disent pas ce que c'est que le militaire.
Alors, le militaire a donné...
Alors, justement,
Il y a eu tout un développement du militaire... qu'on a pour l'instant un peu oublié, avec l'équilibre de la terreur, etc., etc.
Voilà.
Qu'est-ce que tu peux nous
dire
là-dessus?
Eh bien, je pense que d'abord, il faut dire comment ça a commencé. Alors bon, ça a commencé effectivement par une expérimentation, puis un essai sur le terrain forcené aux États-Unis d'Amérique. Mais dès le départ, ou pratiquement dès le départ, c'est-à-dire 2-3 ans après, compte tenu du fait que l'arme nucléaire a été utilisée de façon détournée par rapport à ses objectifs. Ce que voulaient les physiciens, c'est d'avoir une arme contre Hitler, contre le nazisme. Et les États-Unis l'ont utilisée contre le Japon à un moment où le Japon avait quasiment déjà capitulisé, c'est-à-dire pour rien.
Par racisme.
Et pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Voilà. Et en effet, ils ont vu. Et très vite, M. Truman l'a utilisé comme un moyen d'hégémonie mondiale des États-Unis. Or, à l'époque, en Union soviétique, la direction de l'Union soviétique de l'époque ne voulait pas d'armes nucléaires au départ. Et c'est un physicien soviétique qui s'appelle Sakharov, qui a d'ailleurs eu après le prix Nobel, et qui a littéralement forcé la main à la direction soviétique sur une base qui était « on ne peut pas laisser un pays être hégémonique au travers de cette arme ». Donc, dès le départ, vous avez la mise en route avec les premières explosions expérimentale de l'arme nucléaire soviétique, vous avez déjà l'idée que c'est une arme qui est complètement intriquée avec une vision politique stratégique de la planète.
C'est ça, l'équilibre de la terreur, en fait.
Alors, le deuxième stade, c'est qu'à partir du moment où les deux grandes superpuissances, je laisse de côté les Britanniques qui avaient une petite bombinette dans un coin, les deux grandes superpuissances, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis, sont vite arrivés à l'idée de dire que, bon, bah, puisque c'était fait, que tout le monde avait l'arme nucléaire, l'idée c'était d'en avoir suffisamment pour dire à l'autre, si vous nous attaquez, je vous efface, ça vous coûtera très cher. Cet équilibre de la terreur a tout de suite donc été basé sur la deuxième notion, qui est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, qui est dire, n'utilisez pas votre arme nucléaire, parce que si vous l'utilisez, etc., vous en met à peu près autant dans la figure. Et c'est ce qui a été très utilisé au moment de la crise de Cuba,
62,
avec M. Khrouchtchev, et dans laquelle, effectivement, la dissuasion, là, a fonctionné. Tout le problème, c'est que qui dit équilibre de terreur dit forcément qu'on doit être au même niveau que son adversaire, voire un peu plus. Et à ce moment-là, c'est mis en route, jusqu'aux années 80, une espèce de course aux armements folle, dans laquelle très vite les deux États avaient de quoi détruire la planète, puis deux fois, puis trois fois, et on en est arrivé à 10 fois ce qu'il faut pour détruire toute la planète.
D'accord.
Dans cette situation-là, deux autres puissances nucléaires sont apparues. La première, c'est la France, avec une filière différente des États-Unis et de l'Union soviétique. C'est-à-dire que c'est en France qu'on a inventé un moyen d'avoir ce qu'il faut pour faire l'arme atomique en passant par le civil. L'idée géniale de De Gaulle, c'est d'avoir fait des centrales nucléaires, graphite gaz,
qui permettaient d'accumuler du plutonium,
et quand on en avait suffisamment, et d'uranium 235, et quand on en avait suffisamment, on pouvait faire sa bombe nationale.
D'accord.
Et donc, ça a été l'idée de développer du nucléaire civil pour l'opinion publique en disant ça fera de la bonne électricité, mais en réalité pour savoir ce qu'il faut pour faire des bombes. Et un autre pays l'a imité, c'est la Chine. On est donc arrivé aux 5 grandes puissances nucléaires, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Dans cette situation-là, ce qui compte, qu'il faut comprendre, c'est que la course aux armements a induit un élément nouveau, qui était lié à cette course elle-même. C'est-à-dire que pour que votre dissuasion marche, il fallait un système de communication entre les deux blocs pour pas entre autres le téléphone rouge, mais aussi tout un système d'observation, de surveillance, de machin et tout. Et donc dans lequel, si vous voulez, un certain nombre d'accidents ont eu lieu effectivement, mais avaient tout de même une dizaine, quinzaine de minutes, suffisamment pour que les deux téléphones rouges se mettent en communication et qu'on arrête les frais. Tout a été cassé à partir du moment où a été mis en route autre chose qui est le développement réciproque dans les deux blocs des missiles et des antimissiles.
C'est ça, oui.
À cette époque.
On est en train de revenir à l'heure actuelle.
Voilà.
Enfin, les Yankees sont en train de dire.
Absolument. Mais à cette époque, pourquoi ça a tout déstabilisé? C'est parce que dans le système traditionnel, des fusées, soit les avions, soit les fusées du sol à envoyer dans l'autre continent, les transcontinentaux, ça donnait tout de même le temps de vérifier qu'on ne faisait pas une bêtise. À partir du moment où on a eu ce système-là, les délais de réaction sont tombés jusqu'à de l'ordre de la minute. Or, c'est insuffisant pour téléphoner avec le téléphone rouge.
Ah, d'accord.
Et donc, on est arrivé dans les années 80, une situation dans laquelle la plus grande probabilité était de voir déclencher une guerre nucléaire uniquement par accident.
C'est ça, oui.
Il y a eu 7 alertes rouges dans les années 80.
Oui.
Et donc, à partir
dans les années 80.
Dans les années 80.
C'est si proche que ça.
80-81, oui, il y a eu 7 alertes rouges. Je peux même, tout à l'heure, si vous voulez, bon, je vais vous en détailler une parce que c'est très intéressant pour voir comment ça marche.
Ah oui, il faudrait nous en détailler.
Un exemple simple, c'est dans une base américaine, ça existe aujourd'hui encore, il y a deux systèmes pour signaler ce qui se passe. Il y en a un qui est un système avec une couleur et qui indique simplement les accidents banaux. Je sais pas, moi, une clôture de cassée, il y a eu des blessés, il y a machin qui est tombé, bien. Et puis, il y a une deuxième procédure qui est, attention, ça, c'est la mise en route de l'état d'alerte. Et dans cette base, si vous voulez, il est arrivé quelque chose, c'est qu'il y a des gens malveillants qui ont cassé le grillage pour aller piquer du matériel pas cher, et l'informaticien s'est trompé. Et au lieu de mettre « c'est un accident et tout », il a mis « état d'alerte ».
C'est ça, le 2 ou à la place du 1.
Et donc, ça n'avait aucune importance localement, mais c'est transmis à toutes les bases américaines. Et dans une autre base, il y a eu un autre incident tout à fait mineur, c'est-à-dire qu'il y a eu une intrusion d'un inconnu sur la base qui n'a pas bien présenté ses papiers, qui normalement aurait simplement entraîné la vérification des papiers, et qui, compte tenu du fait, a déclenché l'alerte, c'est-à-dire que le chef de base a mis l'ensemble du dispositif opérationnel et donc prêt à lancer les fusées. Et le miracle, c'est qu'avant de lancer la fusée, il a eu l'idée d'en avertir le Pentagone.
C'est ça, qui a dit,
alors
mais attendez.
Que, alors que normalement, le fait d'être en état d'alerte aurait dû venir du Pentagone. Donc voilà. D'un seul coup, il a vérifié le truc. Et à ce moment-là, on l'a arrêté de justesse. Les avions étaient déjà sur la piste parce qu'il était en train d'envoyer un paquet de bombes nucléaires sur l'Union soviétique.
D'accord.
C'est voilà un exemple d'accident. Et il y en a eu comme ça, 7 dans la même année.
On voit le caractère responsable des gens qui dirigent.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez, voilà à peu près où ça en était à cette époque. Je reviendrai dans la deuxième partie sur ce que les médecins ont fait là-dedans, parce qu'ils ont joué un rôle. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience difficile, longue, puisque finalement, le premier dirigeant soviétique à avoir à peu près compris qu'il était assis sur une chaudière, c'est Gorbatchev. Donc, je reviendrai là-dessus sur la période actuelle. Mais je voudrais avant dire un petit mot encore sur cette période qui est l'équilibre de la terreur et la course aux armements. Il faut savoir aussi que dans cette course aux armements, il y a une différence profonde entre l'Union soviétique et les États-Unis. Les États-Unis dépensent beaucoup d'argent dans le programme nucléaire, mais néanmoins, l'essentiel de leur économie n'est pas là.
Voilà.
Elle est ailleurs. En Union soviétique, et le responsable s'appelle Brejnev, personnellement. Il a, pour pouvoir être à la hauteur de cette course aux armements, fait de l'industrie nucléaire militaire la première puissance industrielle du pays qui engloutissait, tout compris, environ le tiers du budget.
Oui.
C'est-à-dire
qui est complètement intenable.
C'est non seulement intenable, mais ça représentait des millions de gens, et en particulier l'élite des ingénieurs, des informaticiens, des scientifiques, etc., mais aussi des techniciens, mais aussi de toute la maintenance, qui ne travaillaient que pour cela. Et dans lequel, si vous voulez...
C'est-à-dire que le reste de la production du pays, ça...
A forcément reculé.
Évidemment, souffrait.
Et déjà, donc, si vous voulez, l'Union soviétique était déjà en déséquilibre à cause de ça, avec un système d'organisation de l'État complètement rigidifié et très centralisé pour faire face à cette situation... Et le coup de grâce a été donné par l'invention de les prémices de ce qu'on a appelé la guerre des étoiles. C'est les premiers programmes dits antimissiles. C'est du bluff total, parce que c'est impossible d'attaquer par laser quoi que ce soit à partir des étoiles ou des satellites. C'est du bluff, mais du bluff avec une base technologique sérieuse aux États-Unis. Et quand l'Union soviétique a voulu se mettre au niveau, eh bien, elle a croulé économiquement.
Excuse-moi, c'est encore du bluff actuellement quand Bush quand...
On va y arriver, parce que c'est à mon avis, c'est aussi du bluff, mais de façon, vous verrez, mieux adaptée à la situation actuelle.
D'accord.
Et donc, le truc a très très bien marché, c'est-à-dire que l'Union soviétique s'est effondrée, contrairement à ce que disaient tous les soviétologues, où Mme Dankos expliquait que c'était les Chinois qui allaient les détruire, ou bien je ne sais plus qui disait pas du tout, c'est les Occidentaux. C'est pas vrai du tout. C'est une implosion et pas une explosion. C'est-à-dire que l'Union soviétique s'est détruite de l'intérieur. Et quand elle s'est détruite, et c'est, si vous voulez, la phase de transition, c'est la période Gorbatchev, qui a essayé de porter remède en arrêtant cette hégémonie nucléaire, mais c'était trop tard. Il a fait des programmes de désarmement pour changer la situation. Eh bien, tout simplement, à partir de cette faillite de l'industrie nucléaire, ça a entraîné la faillite économique du pays.
Bon, mettre tout sur cette activité-là, ça veut dire que toutes les autres activités ont des faiblesses.
Absolument. Au début, elles ont des faiblesses, puis ensuite des reculs, des retards, puis ensuite des insuffisances, puis ensuite un climat social qui se développe parce que les gens, dans l'ensemble, ne mangeaient pas dans leur assiette des armes nucléaires, mais plutôt des éléments consommables. Et donc, si vous voulez, est arrivée ensuite la période de la dislocation de l'Union soviétique et donc la naissance de la Russie. Par rapport à la Russie tout particulièrement, s'est trouvée dans une situation dans laquelle on dit l'État a cessé de payer les salaires, c'est-à-dire que, exactement comme en Argentine aujourd'hui. Et en particulier les salaires de l'industrie nucléaire. Bon, alors on peut dire que c'est peu de choses. Ben non. Ça veut dire qu'il était en état
sans
exactement, de l'aspect le plus important. Et donc, si vous voulez, le marasme épouvantable qu'a connu l'Union soviétique est en partie lié à ce système monolithique dans lequel, tant que ça tournait, ben ça tournait, puis quand ça tourne plus, c'est tombé complètement en poussière. Alors ça, c'est, si vous voulez, la situation à peu près à la fin de l'Union soviétique.
C'est-à-dire d'ici il y a une bonne dizaine d'années.
Voilà, au sens large. Alors dans cette affaire-là, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette période jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, on a arrêté l'équipe de la terreur. Il y a tout de même eu des programmes réels de désarmement nucléaire de part et d'autre. Mais cette fois-ci, les États avaient intérêt.
Oui, vu qu'ils avaient de quoi détruire la planète 10 fois, ils pouvaient quand même diminuer.
Voilà. Mais si dans cette affaire-là, le truc est extraordinaire, et c'est en particulier pour la France, puisque la dissuasion française est un dogme qui vient du temps de De Gaulle, et que tous les présidents successifs de droite ou de gauche ont repris comme une religion. Vous savez, on dit qu'en France, il y a 5 religions principales. À mon avis, il y en a une, c'est le nucléarisme. C'est-à-dire que, contre vents et marées, on a continué à affirmer que la dissuasion nucléaire, même si on n'avait rien à dissuader, était la seule stratégie qui est le fondement central de la défense de nos intérêts nationaux, dixit les présidents successifs, y compris le président actuel. Avec ce truc très curieux, qui est que, si vous voulez, cette dissuasion... Déjà, au niveau de la Russie, il n'y avait plus rien à dissuader. Eh bien, c'est à partir du moment où notre système, normalement, il y avait deux systèmes engrenés correspondants, l'Union soviétique, les États-Unis, dans laquelle, à tout fait nouveau, il y avait une riposte, et donc vous avez deux systèmes qui marchent. Vous en avez un, celui de la Russie, qui se met en drapeau. À ce moment-là, les États-Unis gardent, si vous voulez, un système en état d'alerte qui est excessif. Et donc, à partir de ce moment-là, par rapport à un système excessif, ben, vous ne pouvez plus répondre. Donc, il n'y a pas d'équilibre de terreur, il n'y a pas d'équilibre du tout. Il n'y a pas de dissuasion non plus, sinon le fait de dire qu'on a un sanctuaire, c'est effectivement ce qu'a fait la Russie depuis 10 ans, c'est de dire « oui, mais... » Quand vous aurez détruit toute la Russie, on a un petit coin bien caché et on peut vous mettre une ou deux fusées sur le coin de la figure.
Bon. Voilà. D'accord.
Ce qui est une dissuasion au rabais.
Oui.
Par contre, si vous voulez, alors, rattaché à cette dissuasion au rabais, les Britanniques et les Français ont bien désarmé un petit peu, mais ont continué à garder la même doctrine. Avec, pour la France, quelque chose d'extraordinaire, qui est la déclaration du Premier ministre, de Lionel Jospin, qui a dit la vérité, qui est de dire, un, la France n'a pas d'ennemis, deux, elle n'a rien à dissuader, mais trois, la force de frappe doit être maintenue, parce qu'on ne sait jamais.
Voilà,
c'est-à-dire qu'on a transformé l'ennemi potentiel par un nouveau qui s'appelle « on ne sait jamais ».
Voilà.
Mais c'est dur à savoir dans quel endroit de la planète il se trouve. Ça, c'est la dissuasion à la française, dans lequel, si vous voulez, on verra tout à l'heure, que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très crédible. Par contre, c'est développer un autre type de dissuasion effectif sur le terrain, c'est la situation asiatique. Or là, il y a une dissuasion très différente, qui est qu'on fait rentrer l'arme nucléaire pour régler des conflits locaux, pas du tout pour empêcher l'autre, mais pour réellement s'en servir. Et c'est un schéma à trois, c'est-à-dire Chine, Inde et Pakistan. Le grand problème entre l'Inde et le Pakistan, vous savez, c'est un problème territorial. C'est une zone qui s'appelle le Cachemire,
oui.
Dans laquelle ça fait...
Il y en a un petit morceau qui appartient à la Chine, d'ailleurs.
Voilà, et la Chine n'est pas très loin. Et donc, dans cette situation-là, il y a une espèce d'équilibre militaire qui est que, de temps en temps, on en est au 6e ou 7e conflit, bien. La différence maintenant, et pour prendre le tout dernier, mais c'était déjà vrai dans celui d'avant, c'est que très tranquillement... Les gouvernements indiens et pakistanais disent « et on y va, et on y va avec nos armes nucléaires ».
Voilà.
Et la seule chose qui les retient, c'est quand la Chine dit « si vous y allez, vos armes nucléaires, attention, moi je peux intervenir ». Et c'est tout de même l'étage au-dessus. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une espèce de situation de nouvelle dissuasion qui était impensable à l'époque des deux blocs. Parce que l'idée des deux blocs, c'est d'aller tout de même détruire le pays qui est loin de chez soi. Là, la différence, c'est que c'est le voisin d'à côté.
Ils sont chez soi, quoi.
C'est-à-dire que ça rejoint le vieux rêve des gaullistes historiques qui voulaient l'arme nucléaire pour uniquement la mettre en Allemagne. Eh bien là, c'est une réalité. Et donc, on a une situation dans laquelle cette nouvelle dissuasion est devenue périphérique par rapport aux grandes puissances, alors qu'avant, c'était un instrument central.
Nous sommes en compagnie d'Abraham Béard, qui est le président de l'Association des médecins contre la guerre nucléaire.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, toujours sur l'émission Mode d'emploi jusqu'à 21h30.
Alors, tout ça est arrivé à la situation actuelle, qui est de dire, bon, bah, en gros, où on en est aujourd'hui, tout ça c'est bien sympa, mais bon, hein, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de tout ça? Eh bien, l'élément nouveau, c'est deux choses. Premièrement, il y a tout de même le président d'une grande puissance. Bon, il n'est peut-être pas d'une intelligence extraordinaire, qui est le président actuel des États-Unis, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une déclaration qui est quelque part du bon sens, qui est de dire « il n'y a plus de dissuasion américaine ». Pour la bonne raison qu'il n'y a plus d'adversaire, puisque en face c'est la Russie, que la seule chose qu'on peut faire avec la Russie c'est de s'allier avec elle, mais qu'on n'a plus rien ni à le menacer du tout. Donc la dissuasion est morte. Mais si la dissuasion est morte, est-ce que la menace est morte? Ah ben non, parce qu'avec tout ce qu'on fait dans le monde, le moins qu'on puisse dire, et il n'avait pas si tort que ça, la menace existe toujours. Alors il faut trouver autre chose.
La menace, c'est-à-dire par exemple le nucléaire pakistanais, le nucléaire indien, le nucléaire chinois.
C'était encore plus simple que ça. C'était le grand truc extraordinaire qu'on appelle les États voyous. Pour vous montrer que c'est la véritable science-fiction de la propagande, mais ça, il reprend le programme de son père Bush, l'autre, c'est d'expliquer qu'il existe dans le monde des États voyous, dont les États-Unis ne font pas partie, alors que selon les critères, le seul État qui correspond à la définition d'État voyou, c'est les États-Unis.
Voilà, alors que c'est le plus grand massacreur de l'histoire, quand même.
C'est les seuls. Non, mais c'est pas seulement ça. C'est que on est un État voyou qu'on n'applique pas les traités internationaux. Quel est le pays au monde qui les applique jamais? C'est les USA. On est un État voyou dans lequel, quand on a signé un traité, on s'assoit dessus. Quel est le seul pays au monde qui s'assoit sur les traités qu'il a signés? Les USA. Et ainsi de suite, comme ça on peut prendre toute la liste, mais néanmoins eux, c'est pas ça qu'ils ont dans la tête. Les États voyous, c'était la Libye, l'Irak, la Corée du Nord, bon, avec une géographie variable, ça dépend des jours, etc. Et avec l'idée que ces États-là allaient développer des fusées transcontinentales, vous voyez la technologie, et que donc il fallait se protéger contre ces fusées transcontinentales en mettant en point le parapluie, le bouclier antimissile, c'est-à-dire fabriquer un système extraordinairement lourd de détection avec des satellites pour pouvoir voir d'où partent ces fusées, et puis ensuite de pouvoir effectivement intercepter un certain nombre de ces fusées. Quand on voit les choses de près, c'est-à-dire ce que dit effectivement le Pentagone, le coup des États voyous, ça c'est pour la propagande, c'est pour les gogos. En réalité, ils ont tout calculé contre la Chine. Leur calcul, c'est de dire que la Chine est en train de devenir une grande puissance, et donc aussi une grande puissance nucléaire, qu'elle peut avoir la technologie...
C'est-à-dire qu'elle a remplacé la Russie, quoi, en fait.
Et que donc, on reprend les mêmes et on recommence, et ça remplace la Russie. Et comme ça a très bien marché avec la Russie, de faire un programme technologiquement très avancé, et que d'autre part, pour les États-Unis et l'Amérique, le véritable adversaire, c'est l'Europe. Même si ce sont entre guillemets des alliés,
économique.
Parce que c'est tout de même, sur le plan économique, les partenaires adversaires. Eh bien, l'idée de mettre en route le truc antimissile, c'était de lancer un défi technologique, voilà, qui aurait permis de ruiner la Chine si elle avait accepté. Sauf que les Chinois, c'est pas Brejnev, et qu'ils ont très bien vu le truc, et très tranquillement, ils ne marchent pas dans la combine. Point. C'est-à-dire que c'est foutu pour ça. Mais il y a un endroit où ça marche. C'est l'Europe. Et en France, alors qu'au début la France était contre, maintenant des voix se lèvent pour dire « Mais on aura un système antimissile, mais il faut que le budget militaire soit doublé, triplé, quadruplé, voire la droite et les élections, et vous aurez... » Bon, ça veut dire que ça marche au moins sur un des deux. Alors, si on voit les choses de plus près, c'est que c'est pour le peuple américain, est-ce que ça marche? Ah ben la réponse, c'est que ça marche pas du tout. Pour la bonne raison que au mieux, dans 2015... il pourrait intercepter 30%, mais c'est du rêve. On pense que pas plus de 5 ou 10% sont interceptés parce qu'il y a des leurres, c'est très difficile à... Bon, je passe sur le détail technique.
Des
Ça
missiles,
veut dire que
quoi.
Les missiles éventuels qu'ils recevraient, ils peuvent, moins de 1 sur 3, ils peuvent les arrêter. C'est-à-dire que 2 sur 3 passent. Mais c'est pas ça qui est important, qu'il faut comprendre. C'est que les dispositifs antimissiles sont prioritairement mis sur les cibles militaires aux États-Unis. Et ça veut dire que les missiles qui vont passer ça ne sont pas les missiles du côté des militaires,
c'est sur les villes, quoi.
Sur la population civile.
D'accord.
Et donc le système du bouclier antimissile, pour le peuple américain, c'est pire que s'il n'y en avait pas. D'accord. Parce qu'avant, on peut partager avec les militaires, et maintenant, si ça marche, on ne partagera rien du tout. Donc voilà, si vous voulez...
C'est uniquement les civils qui prendront la sauce, quoi.
Alors, dans cette situation, qui est tout de même, un peu curieuse, quelle est la position de la France? Eh bien, c'est très simple, c'est de dire, on est contre le bouclier antimissile, mais pas du tout, pas parce qu'il ne marche pas, parce que c'est un défi technologique. Non, on est contre, parce que ça remet en cause le dogme de la dissuasion. Puisque nous, on est prêts, que le noyau de notre défense, c'est d'empêcher, on ne sait pas qui, puisque c'est ça...
De nous balancer des bombes atomiques.
De nous balancer des bombes atomiques dont on ne sait pas où. Eh bien, à ce moment-là, il y a la plus grande puissance du monde qui dit « c'est des histoires, ça ne marche pas, de quoi on a l'air ?» Eh bien, ça ne fait rien, on continue. Et mieux que ça encore, il y a même des demandes pour augmenter, pour, si vous voulez, consolider encore l'armement nucléaire français. Bon. Alors, le problème, simplement, c'est jusqu'à où et jusqu'à quand. Bon. Alors, si vous voulez, je voudrais un petit peu terminer là-dessus. C'est que dans cette situation-là, très très tôt, et je reviendrai tout à l'heure ce que les médecins viennent faire dans cette galère, mais nous, ça fait 10 ans qu'on essaye d'expliquer aux grands de ce monde, et surtout aux Américains, et aussi au gouvernement français, que plus vous faites un système sophistiqué de surveillance et de technologie très élevée, plus vous induisez en tentation pour que les gens passent en dessous. Hein, c'est bien connu. Si vous avez tout un système qui est super avec des radars et des machins...
Qu'est-ce que tu entends par passer en dessous?
Eh bien voilà, ça veut dire que si vous voulez, il y a deux voies importantes pour passer en dessous. Il y a premièrement la voie de ce qu'on appelle les mini-nukes, c'est-à-dire les armes nucléaires de petite taille, de petite portée, mais qui n'ont pas besoin de fusées pour venir. Voilà. Il suffit de les mettre dans un camion, dans un bateau...
Classique, je dirais de terrorisme, pourquoi pas.
Et on y arrive, et la deuxième voie logique, c'est le terrorisme. C'est-à-dire que ce qui est arrivé était parfaitement prévisible. Regardez le système de dissuasion pour que les terroristes ne prennent pas les avions. C'est extraordinaire. Eh bien, ils le prennent avec des cutter. Et alors?
Ça, c'est fantastique, ça.
Et donc, à ce moment-là, c'est les avions eux-mêmes qui sont détournés, qui sont des cibles. Et encore... Tant que c'est sur des tours, ça fait des victimes, c'est affreux, on a tous été secoués par ça. Mais imaginez la même chose sur une vulgaire centrale nucléaire ou un centre de retraitement. Si un avion de ce genre tombe sur La Hague, ils ont beau dire et beau faire, c'est la moitié de la France qui passe à la casserole. Donc c'est pas rien. Bon. Eh bien, cette situation-là, si vous voulez, est prévisible. Parce que si vous mettez tout un système sophistiqué pour protéger par le haut, la logique d'un adversaire... Que ce soit des réseaux terroristes ou des fameux états voyous, c'est pas avec des missiles qu'ils vont vous attaquer. C'est avec des kamikazes et des dingos qui vont passer en dessous et dans laquelle on ne peut à peu près rien. Et donc, c'est la situation actuelle.
Donc, il faut supprimer la nécessité du terrorisme.
Absolument. Et bon, on va arriver après sur les solutions. Mais en tout cas, dans le cas particulier, il y a un lien, si vous voulez, quelque chose qui relie la poussée des méthodes terroristes de toute forme, et les moyens super sophistiqués que l'on développe par ailleurs. Et donc actuellement, un des moyens de changer la situation, c'est d'appliquer les lois internationales.
Par exemple, je termine
là-dessus.
Bêtement.
Très clairement, il existe un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération, et qui a été signé et ratifié par une grande majorité de pays sur la planète. Sauf, bien sûr, les États-Unis, Israël, l'Inde, le Pakistan, bon. La Russie, ça y est, l'a ratifié aussi. Or, ce traité, l'année dernière, les 5 puissances nucléaires sont venues dire solennellement que l'objectif de ce traité est l'élimination complète des armes nucléaires. Alors, faut comprendre, c'est pas qu'elles se sont converties à un écologisme tardif. C'est parce que, tout simplement, il y avait bien cette analyse que de maintenir tout ce système-là ne faisait qu'accentuer la prolifération nucléaire d'une part, et d'autre part, la tentation de passer en dessous d'autre part. Et donc, de ce point de vue-là, c'était cohérent de dire que l'objectif est l'élimination complète des armes nucléaires, parce qu'à ce moment-là, on revient dans une situation dans laquelle on peut davantage agir sur les véritables menaces plutôt que les menaces supposées. Voilà, on en est à la situation actuelle. Il y a une prise de conscience aiguë, surtout après le 11 septembre. Parce que après le 11 septembre, ce qu'un certain nombre de gens essayaient de dire, c'est que la tentation terroriste est une réponse. Ben, aujourd'hui, c'est une réalité. Et deuxièmement, aller chercher les réseaux terroristes avec des armes nucléaires, il ne faut même pas y penser.
C'est tout du monde, rêve. Oui, tout le monde rigole. Il y a
puisque je vous rappelle que le problème essentiel, c'est qu'actuellement, il s'agit de retrouver un des responsables de tout ça qui est parti en motocyclette. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'Amarins, qui a voulu le poursuivre en vélo, est tombé dans un ravin. Vous voyez qu'on est loin des fusées internucléaires et des mégatonnes. Alors je sais que si jamais il prend un bateau, notre Charles de Gaulle va le rattraper, mais pour l'instant, ça a l'air d'être sur Terre, donc il n'est pas encore très efficace. C'est un fait. Et donc voilà à peu près où on en est. Tout le problème dans cette affaire...
Non mais le problème, il est comment on échappe à la menace terroriste à partir du moment évident où les gens à qui on interdit tout moyen d'expression utilisent le terrorisme.
Si vous voulez, quand on passera à la deuxième phase, c'est-à-dire ce que les médecins viennent faire là-dedans, notre analyse, nous, en tant que médecins du terrorisme, pour faire peut-être une parenthèse là-dessus, c'est que c'est vrai que ça s'apparente au niveau des méthodes, c'est les mêmes méthodes que toutes les mafias du monde et tout le banditisme du monde. C'est-à-dire l'idée de terroriser des gens, d'utiliser des cautions civiles pour faire avancer quelque chose, avec une grande différence. C'est que si les mafieux font ça, c'est uniquement dans leur intérêt, point.
Pour faire du
si
fric.
Si les réseaux terroristes font, c'est toujours au nom d'une cause. Alors au début, c'est vraiment au nom d'une cause. Parfois, c'est une cause raccrochée. Parfois, c'est une cause évoquée, mais c'est toujours au nom d'une cause. Que cette cause soit certains cas du nationalisme, c'est-à-dire la défense du territoire, que ce soit une religion, comme chez les Irlandais ou chez les musulmans, que ce soit, enfin, chez les islamistes, les musulmans n'y sont pour rien, les malheureux. Mais bon, il y a toujours une cause. Et quelque part, ce qui alimente le terrorisme, c'est quand cette cause apparaît comme suffisamment acceptable et crédible par une population qui n'a pas d'autre choix, c'est là où je te rejoins, pour être sinon soutenu, du moins pas très attaqué. Et la seule chance que l'on a d'inverser la situation, c'est quand l'opinion publique bascule de l'autre côté. Et c'est des phénomènes qui existent et sur lesquels nous avons assisté à ces phénomènes. Ça ne suffit pas, mais à l'inverse, ça ne marche pas s'il n'y a pas ça. Prenez l'exemple de l'Irlande du Nord. La seule chance qu'il y a eu, même si c'est pas gagné, même s'il y a encore des retours de flammes, même si maintenant il y a un terrorisme protestant, après le terrorisme catholique, c'est quand la population irlandaise a dit « ça suffit comme ça », que forcément, si vous voulez, le prétexte de la lutte nationale, mais du terrorisme, s'est retrouvé coincé et qu'on a une petite chance d'avancer.
Oui, tout cela est fort intéressant. Néanmoins, il y a une question qui me gratte, si tu veux, c'est pourquoi, fondamentalement, ce sont des toubibs qui ont pris en main. Bon, je sais que tu étais un spécialiste de la médecine nucléaire. Bon, pour moi, ça évoque pas grand-chose, sauf que tu devais manipuler des bombes au cobalt ou des trucs dans ce goût-là. Mais pourquoi ce sont des toubibs spécifiquement qui ont décidé de s'intéresser à ce problème, et qu'est-ce que ça a comme résultat?
Alors, le point de départ est très intéressant. La fondation de cette association médicale, dans les années 80, s'est faite entre deux cardiologues, un soviétique et un américain,
ah bon,
au cours d'un congrès de cardiologie qui avait lieu à Moscou, et dans lequel, discutant profession, à un moment donné, le cardiologue américain dit « mais vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour que la planète saute 10 fois. » Et l'autre, il dit, ben, vous en faites autant, mon cher collègue. Et à ce moment-là, il dit, mais si ça arrivait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'était deux cardiologues spécialisés dans la réanimation cardiaque. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Alors, ils ont dit, ben, on va regarder de près. Et la réponse est arrivée, c'est qu'on ne peut rien faire. Pourquoi? C'est que si on prend un phénomène localisé, si vous voulez, si on prend par exemple un grand tremblement de terre, du point de vue des destructions, c'est l'équivalent d'Hiroshima. Quelle est la différence entre les deux? c'est quand il y a un grand tremblement de terre, très très vite, vous pouvez amener des équipes de secours au contact.
Il n'y a pas de radioactivité quand même.
Parce qu'il n'y a pas de radioactivité. Et puis d'autre part, si vous voulez, très très vite, bon, la chaleur, bon, il n'y a que de la destruction. Donc vous pouvez effectivement, en termes de soins, en termes de réponse aux situations de détresse, mettre en route un tas d'équipes, et c'est ce qui se passe effectivement. Si vous êtes dans une situation d'Hiroshima, d'abord, même en dehors de la radioactivité, la chaleur est telle dans votre point d'impact que personne ne peut y aller. Et au moment où ça se dissipe et tout, il y a un deuxième problème, c'est que c'est tellement radioactif qu'on ne peut pas y mettre les pieds. Et troisième élément, toutes les infrastructures sanitaires sont détruites comme les autres. D'où cette affiche-là que vous avez devant vous dans la revue qui était de dire « S'il y a une catastrophe nucléaire, c'est pas la peine d'appeler votre médecin, il peut rien pour vous ». Or, la tradition en médecine, c'est que quand on est devant une situation dans laquelle on ne peut rien, il n'y a qu'une chose qu'on sait faire, nous, c'est la prévention. Et à ce moment-là, les deux cardiologues ont dit « Si on ne peut rien, si ça arrive, on peut essayer d'empêcher que ça arrive ». Et donc, ils se sont dit « Il faudrait qu'on fasse une association, non pas contre la guerre nucléaire, mais pour la prévention, et c'est le nom exact, de la guerre nucléaire ». Alors ils sont un peu penchés un petit peu sur le dossier au début très naïvement en disant « Oh, la guerre nucléaire, c'est peut-être parce que les gens s'aiment pas bien, ils se bouffent le nez, il y a une différence idéologique ». Et puis très vite, ayant les éléments du dossier, ils sont aperçus que le danger principal, c'est la guerre accidentelle dont je vous parlais tout à l'heure.
D'accord, oui.
Et donc à ce moment-là, il y avait une solution. Et la solution, elle a été trouvée quand, effectivement, avec des médecins de plus de 70 pays qui sont regroupés dans la même association, ils ont été voir successivement M. Gorbatchev à l'époque et le président des États-Unis pour dire « Quand est-ce que vous allez tirer le bilan de la réalité qui est cette augmentation terrible des accidents ?» Et à chaque fois, vous en sortez vraiment à très peu près. Est-ce que vous pouvez nous garantir que ça va continuer ? Et le premier qui a craqué, c'est Gorbatchev. Bon, il avait aussi des raisons internes.
Peut-être que c'était le plus intelligent.
Bon, peut-être. Mais c'est le premier qui a craqué, qui a dit « Oh oui, non, ça, c'est pas possible. Ça, on tiendra pas ». Et donc, qui a été le premier à dire « Il faut déjà arrêter la course aux armements, puis commencer à descendre ». Mais il faut dire aussi que le président des États-Unis, ça a commencé avec Nixon, puis ça a suivi avec Reagan, etc., ont tout de suite proposé les programmes START, c'est-à-dire les programmes de désarmement nucléaire. Alors au début avec beaucoup de précautions, puis un peu moins. Mais bon. Et donc, le premier résultat de l'action des médecins, et on a été très très vite appuyé par l'ONU, l'UNESCO, et puis ensuite, bon, puisqu'on nous a donné le prix Nobel en 1985 par l'opinion publique, si vous voulez, c'était de dire, écoutez, en tant que médecin, la seule prévention qu'on voit, c'est que vous arrêtiez votre carnaval, là, dans laquelle, avec la question très célèbre qui avait été posée en même temps aux deux présidents, qui est de dire, si une guerre accidentelle se déclenche, est-ce que vous regarderez dans la glace? Est-ce que votre conscience vous laissera en paix? Et bon, peu importe, mais ça a été un des éléments. C'était au moment, donc, de cette situation-là. Mais dans la phase numéro 2, il a bien fallu que l'association des médecins se pose un autre problème, qui est de dire, si on veut prévenir la guerre nucléaire, au début, il fallait, et on l'a obtenu, que ce système fasse que les accidents deviennent... Il y en a encore eu un il y a deux ans.
Peu probable.
Non, il y en a encore eu un il y a deux ans. Mais qui, néanmoins, a été très bien maîtrisé. Mais il y en a encore. Et puis il y en avait eu un encore il y a 5 ou 6 ans. Il est plus intéressant, le précédent, c'est l'histoire de la fusée norvégienne. Les Norvégiens ont envoyé une fusée, comme d'habitude, un truc satellite. Puis comme tout allait très bien, qu'il n'y a pas de dissuasion, il n'y avait rien, ils n'ont prévenu personne. Sauf que les Soviétiques ont enregistré le fait qu'il y a une fusée qui était partie dans le territoire.
Ils ont dit « c'est pour nous ».
Et donc ils ont mis tout en route. Et alors la chance, c'est que c'est tombé sur un Yeltsin le matin, il n'était pas encore...
Il n'était pas encore poivré.
Il n'était pas bourré. Et donc, heureusement, il a arrêté le truc. Mais sinon, si ça avait eu lieu en fin d'après-midi, bourré comme il était, on était bon comme la romaine. Je ferme la parenthèse. Mais ça, c'est des choses qu'on comprend. Mais dans une situation dans laquelle il y a la prolifération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fallu que les médecins affinent les choses. Et à ce moment-là, nous avons élaboré une analyse, si vous voulez, qui s'appelle la pyramide de la violence. et dans laquelle cette pyramide, si vous voulez, joue de la manière suivante, mais je peux le décrire même par oral, sans faire de dessin. Imaginez une pyramide. La pointe de cette pyramide, c'est la guerre nucléaire, c'est l'extrême, c'est la fin. Qu'est-ce qui, dans les faits, quand on analyse les choses, conduisent à des situations, en dehors des accidents, je veux dire vraiment dans la vie réelle, les choses normales, qu'est-ce qui fait qu'on évoque la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire? À quel moment cette menace nucléaire apparaît? Eh bien, jusqu'à présent, elle est toujours apparue dans un contexte de guerre régionale. Hein, c'est le cas, historiquement, celui de la guerre de Corée, puis ensuite le moment du Vietnam, puis ensuite, ça a été réévoqué, si vous voulez, dans les derniers conflits. Et donc, si vous voulez, c'est une tradition, ça a été même évoqué même en Afrique, pour vous dire que c'est bon. Et bien entendu, là, dans le dernier conflit, ça a recommencé avec l'Afghanistan, et l'idée d'utiliser l'arme nucléaire pour retrouver Ben Laden, et le conflit Inde-Pakistan. Donc les guerres régionales jouent un rôle important. Mais si on veut prévenir les guerres régionales, eh bien, on sait qu'elles naissent tous de guerres locales. Et ces guerres locales sont basées sur quoi? Elles sont basées sur des conflits ethniques. Et même en Europe, on en a eu. Elles sont basées sur les problèmes de racisme, etc.
En Yougoslavie, pour ne pas le dire.
Pour ne pas le dire. Et d'autre part, avec comme mode d'expression le terrorisme. Si on veut analyser d'où viennent les conflits ethniques et au moins le soutien au terrorisme, voire le terrorisme lui-même, c'est la violence sociale. C'est la base de la pyramide. C'est-à-dire que tout ce qui représente la violence sociale, c'est là où s'alimente tout le reste de la pyramide.
Bien sûr.
Et si en tant que médecin, on veut avoir un programme de prévention correct, il faut que nous puissions agir sur cette violence sociale, qui puisse effectivement avoir un programme de prévention des guerres ethniques et du terrorisme. Il faut qu'on puisse avoir des moyens d'intervention pour essayer d'avoir une résolution non violente des conflits et non la mise en route des guerres locales et régionales. Et c'est dans cette situation-là qu'on peut diminuer la menace nucléaire. Et donc les choses se sont un petit peu sophistiquées. Et nous avons donc, en tant que médecins aujourd'hui, des programmes pour chaque étage. Alors je veux donner,
Attends, mais sur la violence sociale, etc., etc., on fait quoi sur le libéralisme?
Voilà, bah, c'est justement, il est en plein dedans.
C'est
mais
fondamental.
Voilà. Je vais justement, si vous voulez bien, si on a encore le temps, donner deux exemples. Et cette fois-ci, on va revenir à la France, très modestement à ce que fait l'association française. Je pourrais donner des grands exemples mondiaux avec le programme réussi contre les mines antipersonnelles ou d'autres trucs, mais restons très modestes et restons dans l'hexagone. En ce qui concerne la violence sociale, sur laquelle je vais commencer, l'analyse médicale de cette violence dit qu'il y a quatre éléments majeurs pour expliquer la violence sociale. Je ne dis pas les causes économiques, sociales, politiques. Je dis les manifestations. Bon. Il y a la violence individuelle, la violence familiale, la violence de groupe au sens large, c'est-à-dire pas seulement les constitutions de bande, mais le fait que vous avez une violence collective qui se développe, et vous avez la violence institutionnelle. Alors, je ne veux pas insister sur la violence individuelle, familiale et de groupe, parce que ça, en général, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Je voudrais dire un mot de ce que les médecins peuvent faire en ce qui concerne la violence institutionnelle. D'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, contrairement aux trois autres, la violence institutionnelle, par définition, est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas et qu'on subit sans savoir. Prenez un exemple très simple. Vous avez un établissement, je prends d'exprès un établissement de soins, qui accueille des gens. Eh bien, il peut y avoir dans cet établissement une violence institutionnelle qui va faire que ça va créer les pires conséquences, alors que de bonne foi, personne même se pose la question. Et une des raisons de l'apparition des maltraitances, etc., est liée à ça. Je vais prendre un exemple encore plus simple, puisqu'il est d'actualité. Vous savez, vous tous, à quoi servent les urgences dans un hôpital. Et vous avez bien compris maintenant que les urgences servent à deux choses différentes. Un, qui est d'accueillir vraiment des grands blessés, des grands malades qui ont besoin vraiment d'un traitement d'urgence de haut niveau. Bon. Et deux, c'est un lieu d'accueil qui reçoit tout le monde, y compris des gens qui sont simplement inquiets, angoissés, qui ont une question à poser, ou bien qui n'ont pas leur toubib parce qu'il est en grève. Bien. Les urgences, c'est toujours les deux choses. Bon. Si dans cette urgence, vous avez un système d'accueil qui n'a pas bien fait la part des choses et dans laquelle, si vous voulez, pour peu qu'il y ait une dissension dans l'équipe médicale, soignante, qui reçoivent les gens, et dans laquelle, au lieu que ce soit quelque chose de fluide, dans laquelle tout le monde se met d'accord pour trouver les meilleures situations, les meilleures réponses aux situations, il y a un machin rigidifié avec un règlement qui fait que c'est comme ça et pas autrement. Et bien le résultat des courses, et c'est très simple à comprendre, c'est que si vous venez, et c'est le cas dont je prends l'exemple d'enfant, si un enfant vient à cette, amené par ses parents à cette urgence, et dont qu'est-ce que veulent les parents? Ben c'est d'être rassuré. C'est de savoir que finalement, le petit...
C'est bon, traitable.
C'est traitable, etc. Et donc, ce qu'il a besoin, c'est d'un environnement qui puisse le rassurer, lui expliquer ça, ne pas attendre des heures dans le couloir avant de savoir de quoi il s'agit, avoir un minimum d'écoute. Bon, ça, c'est une chose. Mais si, d'autre part, vous avez quelqu'un qui arrive avec un infarctus du myocarde, il n'a plus de tension, il est en train de crever, il s'en fout de l'environnement et de la manière d'être reçu. Ce qu'il veut, et ce qui va rassurer la famille, c'est qu'on va le prendre en charge tout de suite. Et vous voyez bien que la violence va venir tout simplement de là. C'est-à-dire que si le grand, celui qui en a le plus besoin, est mis dans un lieu et pas traité, c'est vécu comme un crime par la famille. Et réciproquement, si la famille a amené le petit Jojo qui a avalé une gomme et qui a peur qu'il s'étouffe et que on lui dit « on n'en a rien à faire de votre truc », c'est vécu aussi comme... Vous voyez, donc, il y a comme ça 1000 exemples. Et donc, les médecins analysent tout cela et on essaye de mettre en place des programmes, y compris nous-mêmes, dans notre association, pour utiliser les techniques de ce qu'on appelle la culture de paix, l'utilisation de la résolution non violente de conflits, l'utilisation aussi d'un système dans lequel les règlements ne viennent pas du haut mais sont discutés dans l'équipe soignante, tout l'élément qui fait que le malade n'est plus un sujet passif mais un citoyen et qu'il a des droits, il n'est pas seulement un sujet passif, tous ces éléments-là, dans ce cas précis, pour, si vous voulez, prévenir les bouffées d'explosion des violences sociales. Je rappelle tout de même que dans un certain nombre d'établissements de soins, ça peut aller jusqu'à l'émeute. Parce que si les gens se trouvent que vraiment on se fout de leur tête, ça finit très mal. Hein. Bon. Donc vous voyez que c'est pas du tout... J'ai pris exprès cet exemple. Juste un deuxième exemple, dans l'étage au-dessus, prévenir le terrorisme. Hein? Pas lutter contre le terrorisme, ça, c'est pas notre boulot, on sait pas faire. Ça, c'est pas, on sait pas. Prévenir le terrorisme, le problème concret est le suivant. Avec nos confrères algériens, l'analyse qui est faite actuellement de la situation dans ce pays, c'est que le terrorisme islamique et la réponse répressive du gouvernement par rapport à ce terrorisme conduit à une situation dans laquelle, si vous voulez, le nombre de victimes, déjà traditionnelles, est considérable. Mais ce qui est aussi très important, c'est que, et aussi pour des raisons de culture, c'est différent de l'Algérie, c'est que quand on parle des victimes directes. Celui qui a échappé à un massacre, celui, si vous voulez, qui a été blessé, bien. On ne comprend pas qu'il existe un nombre considérable de victimes, de gens qui ont assisté à cela. Je vais prendre des exemples. Quand les islamistes viennent dans une classe et égorgent des enfants devant la maîtresse n'a rien. Mais vous voyez bien que c'est une victime aussi. Ou réciproquement, quand des enfants voient leurs parents massacrés, vous voyez bien. Et donc vous avez tout un système dans lequel le deuil est possible pour la famille directe. C'est-à-dire quand il y a un mort, la culture musulmane est extraordinaire dans ce domaine, c'est qu'elle a toute une procédure pour assurer le deuil. Mais quand vous n'êtes pas parti de la famille, quand vous n'êtes pas directement... Ah ben, il n'y a rien. Mais non seulement il n'y a rien, mais c'est très mal vu qu'il y ait quelque chose. Or, l'analyse qui a été faite dans ce pays, mais c'est vrai pour d'autres pays, c'est que quand on ne résout pas ce problème, c'est-à-dire que les gens restent sur ce qu'on appelle les psychotraumatismes, eh bien, de victimes, ils deviennent bourreaux. Et donc, il y a un certain nombre d'entre eux qui vont basculer...
Ils se vengent, quoi.
ils se vengent.
Ils ont la tentation de se venger.
Et une partie d'entre eux, si vous voulez, pour peu que la répression ait passé, par exemple, face à la répression gouvernementale, ils vont tomber dans le bras des islamistes. Face à la répression islamiste, ils vont tomber dans le bras dans ce qu'il y a de pire de la répression officielle. Et donc, il va y avoir une espèce de basculement dans ce domaine. Parce qu'on n'a pas traité le psychotraumatisme.
C'est par le même phénomène qu'on voit souvent que les violeurs d'enfants sont eux-mêmes des...
Absolument, absolument. C'est, si vous voulez, c'est le passage de la situation de victime à bourreau, parce que quelque part, quand il n'y a pas d'autre réponse, la réponse est d'en faire autant. Absolument, c'est la même chose. Et c'est vrai aussi, pas seulement pour les violeurs, mais pour la pédophilie, etc. Vous avez toute une partie qui est, comme c'est la raison, entre guillemets, la transmissibilité de ces problèmes. Eh bien là, dans le cas particulier, qu'est-ce que l'association fait avec nos collègues algériens? Maintenant, ça va mieux. Au départ, c'est des équipes quasi clandestines, puisque c'est pas dans la culture du pays. C'est de monter des équipes dans lesquelles il y a des médecins, des psychologues, des infirmières, enfin, ce qu'il faut, qui, eux, ont pris en charge, en marge des institutions, le traitement de ce type de victimes-là, avec un principe, c'est qu'ils prennent en charge toutes les victimes. Et le débat le plus difficile pour eux, dans leur pays, c'est que le pouvoir voulait qu'ils ne prennent en charge que les victimes des islamistes, et les islamistes, ou la mouvance, ne voulaient qu'ils prennent en charge que le reste. Bon. Le principe, c'est qu'une victime est une victime. Et c'est pas facile tous les jours de le faire admettre. Je prenais un exemple, si vous voulez, en Kabylie. Il y a un gendarme qui a été sérieusement malmené au moment des émeutes. Et la population s'est soulevée quand ils l'ont pris en charge comme victime. En disant, c'est un salopard, il était avec les autres. Il faut pas s'en occuper, il faut le laisser crever. Vous voyez que c'est pas facile. Et donc, tout le programme consiste à prendre en charge cela. Et pour que ça marche, c'est l'apprentissage de techniques médicales assez pointues et difficiles, qui n'existent pas en Algérie. Et donc, nous faisons venir les équipes aux frais des médecins français. Et avec l'encadrement des gens de chez nous, on fait venir l'équipe ici à Paris pour leur donner une formation pendant une semaine. Ils retournent sur le terrain. Une équipe de médecins français va sur le terrain pour poursuivre le dialogue et aider à résoudre les cas rencontrés. Et ensuite, ils reviennent l'année suivante pour se former jusqu'à ce qu'on puisse avoir dans ce pays un certain nombre d'équipes qui prennent en charge cela. Et nous, il nous semble qu'avec nos petits moyens, nous autres médecins de l'association française, eh bien, ça nous paraît cohérent pour répondre et pour prévenir, si vous voulez, cette bascule qui est la base même du terrorisme. Parce que si, effectivement, l'opinion publique de ce pays bascule complètement en dehors de ce système de violence, il y a la possibilité objective pour que ça s'arrête. Si, par contre, on ne fait rien, il y aura constamment une alimentation de ce type de violence.
Ces moyens médicaux, ce sont des moyens psychiatriques, je veux dire. Enfin, j'ai peut-être pas le bon terme.
Non. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si vous voulez, la médecine préventive, c'est tout le problème de la médecine préventive. La médecine préventive, c'est pas le dépistage, vous voyez. La médecine préventive, c'est de traiter l'ensemble des conditions qui conduisent à une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là-dedans, il y a psychiatrique, c'est les formes extrêmes. Il y a d'abord puisque c'est des psychotraumatismes, psycho au sens de psychisme, au sens que c'est dans la tête que ça se passe, dont les troubles sont des gens qui n'arrivent plus à dormir, des gens qui sont en état dépressif, ça c'est la forme ultime, mais même si vous voulez plus simplement, qui sont angoissés, tourmentés, qui souffrent, si vous voulez, du souvenir, et qui n'arrivent pas à se débarrasser, vous voyez, bon. Donc il y a bien sûr des méthodes psychologiques, mais pas seulement. Il y a, si vous voulez, tout un entraînement qui est, au départ, tout un problème de dialogue, de discussion, ça c'est le psychologique, tout un problème aussi d'entraînement à une autre hygiène de vie. Ça s'apprend, hein. C'est de la médecine préventive. Donc, qui est développée, si vous voulez. Et puis ensuite, l'apprentissage, si vous voulez, du dialogue social à ce niveau-là. Donc vous voyez que c'est des méthodes qui parfois s'éloignent de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, mais qui sont constamment intégrées dans ce domaine. Puis la phase numéro 2, c'est un apprentissage très difficile, qui est la résolution non violente des conflits. Attention, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de conflit. Ça, ce serait, pour des médecins, c'est une bêtise profonde. Tout être humain, s'il vit, s'il réagit, va vers un conflit. C'est normal, de la même manière que, si vous voulez, la constitution en bande de certain nombre d'enfants qui sont abandonnés dans la rue, c'est une réponse à leur souffrance et c'est une réponse de survie. C'est-à-dire que les autres meurent. Si on prend les petits-enfants de Rio, qui sont tirés comme des lapins dans les rues par les policiers, là, ces enfants-là, s'ils sont en bande et s'ils sont délinquants, c'est parce que ils ont une volonté de survivre. Les autres, les gentils, les mignons, ils se font nettoyer et ils meurent. Donc, si vous voulez, pour un médecin, c'est pas si simple. Mais là, dans le cas particulier, l'apprentissage, à un moment donné, des conditions élémentaires d'accepter qu'il doit y avoir des règles de vie et d'accepter que, finalement, il y a une autre solution que la résolution violente du conflit est quelque chose de très difficile. Et ça suppose, si vous voulez, une transformation assez profonde des méthodes de la médecine moderne. Mais c'est aussi vrai dans la médecine de soins. Vous êtes ici dans un bâtiment dans lequel on fait de la biophysique, de la science. À l'étage au-dessus, il y a le centre de ce qu'on appelle les soins palliatifs, je veux dire universitaires, pour apprendre. Et toutes les méthodes, vous voyez, là on sort complètement de la prévention, toutes les méthodes des soins palliatifs est basée sur la non-violence, par définition. Parce que l'idée est d'aider des gens à franchir le pas de la mort, sans leur donner des médicaments agressifs, sans les obliger à faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est la notion de culture de paix qui est portée par un certain nombre de mouvements pacifistes pour des raisons idéologiques, très respectables d'ailleurs. Nous, c'est pas ça du tout. Nous, c'est l'instrument de travail. C'est un problème technique. C'est pas du tout... Sinon, ça ne marche pas. Si vous voulez, quand on décide à un moment donné, en accord avec le patient, que dans son stade de traitement, il n'y a pas d'issue curative, et donc qu'on est entré dans une autre phase qui est qu'est-ce qu'il est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de dégradation de son état d'être humain, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'il puisse, si vous voulez, avancer le plus paisiblement possible vers l'issue avec son accord, eh bien, vous voyez bien que ça ne peut pas être des méthodes agressives, par définition.
Bon, ben écoute, il nous reste à te remercier pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. On part de la guerre nucléaire, et puis, on en arrive à la vie de tous les jours. C'est ça qui me paraît impressionnant. Voilà. Bon, eh ben, voilà. Merci, voilà. Abraham Béard.